Littérature sans frontières.
Catherine Fruchon-Toussaint.
Apolline Verlon.
Bonjour à toutes et à tous. C'est l'un des écrivains français les plus uniques de la littérature contemporaine, avec un univers qui embrasse la simplicité du quotidien et la fantaisie des événements, et un style qui oscille entre l'ultra-précision et la gourmandise lexicale. Une œuvre singulière, lue, attendue, récompensée par le prix Médicis ou le prix Goncourt, entre autres, et qui se poursuit aujourd'hui avec une 21e publication qui s'intitule « Bristol aux éditions de Minuit ». Bonjour Jean Echenoz.
Bonjour.
Merci beaucoup de nous recevoir ici à votre domicile pour parler de ce nouveau roman dont l'intitulé est en fait tout simplement le nom de votre personnage principal. Est-ce que vous voulez bien nous dire qui est Bristol ?
C'est un cinéaste de seconde zone un peu qui n'a jamais obtenu des succès foudroyants et qui essaie, au début de ce livre, qui essaie de monter un projet de film et qui va le réaliser. Et donc, c'est un type un peu solitaire, apparemment, qui a eu des histoires sentimentales passées, enfin, on peut l'imaginer. Et ce n'est pas, à proprement parler, un héros. C'est ça qui m'intéressait, parce que les héros, je trouve qu'ils sont un peu plus ennuyeux que les gens en difficulté. Voilà, c'est un type qui doit avoir, je ne sais pas, 50 ans, 60 ans, par là, voilà.
Comment est-ce qu'il est venu à votre esprit, ce personnage ?
Il est venu parce que, depuis le début, en fait, depuis à peu près tous mes livres font appel ou font référence au cinéma, ne serait-ce que par des allusions précises, mais surtout par le fait que j'essaie, un peu depuis toujours, d'importer des éléments de la grammaire cinématographique, de la rhétorique du cinéma dans le roman, d'essayer d'injecter des techniques, des procédés qui existent au cinématographe et de m'en servir au service de la fiction, d'une fiction écrite.
Alors de cette écriture, nous allons sans doute reparler un peu plus tard avec vous, Jean Echenoz. Alors ce Bristol, Robert Bristol, c'est un homme que l'on découvre à la sortie de son domicile parisien, rue des Eaux. Alors, il se trouve que c'est une rue qui existe réellement dans le 16e arrondissement, une petite rue que je connais bien parce qu'à une époque, quand j'y passais pour aller à la maison de la radio, où était RFI il y a quelques années, j'étais frappée par une petite pancarte sous l'encadré rue des Eaux, musée des vins. Et à chaque fois, je m'arrêtais un peu sidérée par ce paradoxe ou cet oxymore, plus exactement. Et vous, comment l'avez-vous découverte, la rue des Eaux, Jean Echenoz ?
Eh bien, en vérité, je crois que je l'ai découverte en sortant de la maison de la radio il y a quelques années. Et puis, elle m'a intéressé parce qu'elle est un peu atypique. Elle s'ouvre sur les quais de la Seine et elle finit, on ne sait pas trop comment. Elle finit sur un square à droite. On peut croire que c'est une impasse, un cul-de-sac. Et en vérité, elle se poursuit par un escalier très étroit jusque, je crois, 60 mètres et quelques plus haut dans la rue Raynouard. Et elle m'intéressait parce que je trouvais qu'elle était un décor de fiction qui m'était donné. Et sans doute n'étais-je pas le premier à avoir ce sentiment, puisqu'il y a eu pas mal de films qui ont été tournés dans cette rue. Elle apparaît aussi dans des œuvres littéraires, déjà chez Émile Zola, plus récemment dans quelques livres de Roberto Bolaño. Ça, je m'en suis aperçu après avoir décidé de l'utiliser comme décor.
Mais vous aviez eu un coup de cœur pour cette rue. Oui. Est-ce qu'il y avait déjà le panneau Musée des Vins ?
Il y avait le panneau Musée du Vin, je crois.
Ah, Musée du Vin, vous avez raison.
Oui, oui, oui. Oui, qui est un peu intriguant parce que c'est une... Enfin, ce n'est pas une contradiction dans les termes. Enfin, ça faisait partie de sa bizarrerie. Comme déjà une espèce de théâtre sur la scène duquel on pouvait imaginer des choses.
Presque une scène de crime d'ailleurs, parce qu'il y a un corps qui chute du 5e étage. On ne sait pas encore, on l'apprendra à la fin, s'il s'agit d'un suicide ou d'un meurtre. Ouais, parce que vous flirtez toujours un peu avec le roman policier, Jean Echenoz.
Le roman policier, je m'en suis un peu éloigné. À une époque, j'avais fait des livres qui étaient très, très, très marqués par cette forme-là. Mais je n'oublie pas que d'une certaine manière, je viens un peu de là, de par mes lectures. Et puis j'aime bien que dans un roman, quel qu'il soit, il y ait une intrigue proche ou lointaine de ce genre de, disons, d'énigme ou de drame.
Quelque chose qui reste en suspens.
Voilà.
Paris, et en même temps, on va le découvrir dans quelques instants avec vous, Bristol nous emmène encore plus loin que le continent européen, puisque nous allons aller avec vous dans quelques instants sur le continent africain. Alors, ce réalisateur qui souhaite adapter un roman pour faire un film, et on va en parler un peu plus dans un instant, a rendez-vous justement avec l'autrice du roman. C'est une femme qui a beaucoup de succès, une femme d'un certain âge, qui écrit de la littérature populaire.
Qui écrit des best-sellers, de la littérature populaire.
Voilà, qui a l'air très, très détachée et en même temps, pas si détachée que ça, puisque de façon assez subtile mais définitive, elle va imposer l'actrice au réalisateur.
Oui.
Est-ce qu'il y a quelque chose d'un petit peu caustique dans la façon où l'autrice veut quand même garder la main sur son roman ?
Oui, pas spécialement, non. L'autrice, c'est une dame qui écrit des best-sellers, qui me faisait lointainement penser... Enfin, je pensais lointainement à une anglaise, à Barbara Cartland. Voilà, j'avais pensé à une espèce d'adaptation française de Barbara Cartland, qui était très qui portait énormément de bijoux aussi. Enfin, c'était un peu une adaptation de ce personnage. Malheureusement, je n'ai jamais rien lu de Barbara Cartland, mais les quelques photos que je voyais, puis l'espèce d'aura qu'elle avait, toujours habillée en rose, etc., je pensais à elle. Mais le personnage de l'autrice dans le roman n'est pas habillé comme ça.
Mais elle a quand même un air de Castafiore.
Elle a un air de Castafiore, elle a un petit chien qui est une mascotte un peu stéréotypée.
Mais pourquoi est-ce que Bristol veut adapter ce roman ? Qui a un titre improbable d'ailleurs, j'arrive pas à le mémoriser
qui s'appelle Nos cœurs au purgatoire.
Voilà, parce que Nos cœurs au purgatoire.
Ouais, je trouvais que dans le genre roman rose, ça marchait pas mal comme titre. Pourquoi est-ce qu'il veut l'adapter ? Je sais pas très bien, parce que c'est une histoire un peu d'aventure et d'aventure sentimentale dans un pays exotique. Voilà, ça c'est pas très bien précisé. Oui, comme ce qui est indiqué sur sa petite notice biographique, il a réalisé des films un peu dans tous les genres, policiers, fantastiques, action, je ne sais pas quoi, sans jamais de grands résultats d'audience. Et bon, il est tombé sur ce livre et il a entrepris d'en faire quelque chose, peut-être parce que c'est un roman très populaire et qu'il aspire... Ça, je sais pas, je suis pas trop dans la psychologie du personnage, mais il aspire peut-être à plus de succès avec l'adaptation de cette œuvre.
Et donc, ce qui vous permet aussi, Jean Echenoz, dès la première partie de ce roman, intitulé Bristol, je le rappelle, justement de mettre en place ces techniques d'écriture cinématographique aussi dont vous parliez au début de cet entretien. Par exemple, ce qu'on a déjà lu chez vous, cette façon de parler, d'écrire en utilisant le « je », le « on », le « vous », vous déclinez tous les pronoms personnels. C'est une façon de multiplier les points de vue, les angles, comme on peut le faire avec une caméra, par exemple.
Oui, c'est comme si on se permettait de filmer une scène avec plusieurs caméras et varier les types de plans. Quand on en a besoin, faire appel à un gros plan, travailler sur des travelling, sur des panoramiques, sur du champ contre champ. Enfin, essayer de restituer cette pratique des cinéastes et dans un but aussi très 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 visuel. Enfin, moi j'ai très envie que les histoires que je raconte et les situations que je décris, d'abord j'ai besoin avant de les écrire d'avoir des images un peu précises, imaginaires, mais qu'elles produisent un effet visuel et un effet sonore, parce que le travail aussi sur la phrase, c'est... Enfin, je travaille dans l'audiovisuel, d'une certaine manière. Voilà.
Mais est-ce qu'il y a un réalisateur frustré en vous, Jean Echenoz ?
Certainement pas. Non, 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 non. Non, parce que faire des films, ça voudrait travailler avec beaucoup de gens. Et ça, je crois que j'en serais incapable. Non. On m'a proposé une fois de faire un film, mais je crois que j'en serais incapable. C'est dans le roman que je me trouve... c'est mon élément, quoi.
Donc, vous utilisez la littérature pour répondre à ce goût de la mise en scène que vous aimez, que vous appréciez,
oui.
Mais un peu à distance.
Oui, en transposant tout ce que j'ai pu apprendre en regardant beaucoup de films, tout ce que j'ai pu apprendre sur cette, encore une fois, sur cette grammaire-là, et en l'utilisant pour produire quelque chose qui pourrait faire l'effet d'un film, tout en étant de la littérature, et en utilisant aussi beaucoup d'outillage poétique, en faisant appel à quelquefois à un vocabulaire scientifique ou technique, qui a sa propre poésie. Enfin, en utilisant tout ce qui est disponible, en fait, tout ce qui peut être utilisable dans la construction d'une fiction.
Et quels seraient les films alors qui vous ont le plus inspiré, justement, pour adapter des techniques cinématographiques à votre écriture?
Oh, ça a été beaucoup, beaucoup le cinéma américain, mais ça a été le cinéma français aussi. Ça pouvait aller de Hitchcock à Claude Chabrol, en passant par Fritz Lang. Je pourrais encore vous donner beaucoup de noms, mais c'est les premiers qui me viennent à l'esprit.
Pour leur virtuosité de mettre en place des caméras, des plans, pour leur façon de diriger des acteurs, pour les histoires, et encore, je ne suis pas sûre que ce soit les histoires qui vous intéressent
non,
plus
mais,
que ça, Jean Echenoz.
Et en mettant pour construire des situations de suspens ou de suspense, enfin, ce n'est pas tout à fait la même. Et aussi de monter des scènes, parce que le montage aussi, c'est quelque chose j'ai l'impression que ça m'a... La technique du montage, ça m'a donné des idées sur la façon dont on peut monter des événements, des fictions écrites.
Par exemple, écrire et ensuite couper pour avoir des effets plus saisissants, ou alors écrire parallèlement plusieurs histoires et ensuite les juxtaposer justement dans un effet de montage qui suscite...
Oui, ces deux types de ces deux pratiques-là m'intéressent, oui. Tout ce qui est lié à la construction et au jeu avec l'image, j'essaie de le transposer dans l'écrit.
On va faire une pause musicale dans Littérature sans frontières, Jean Echenoz, avec vous. Alors, c'est peut-être le moment de vous demander s'il y a une bande originale de film, par exemple, que vous aimeriez qu'on écoute maintenant.
N'importe quelle composition de Bernard Herrmann pour Alfred Hitchcock.
Donc on y revient. Mais avec grand plaisir. Vertigo, par exemple. Ou tous ces films qui nous ont enchantés, qui nous enchantent encore. Vous êtes bien à l'écoute de Littérature sans frontières sur RFI, en compagnie aujourd'hui de Jean Echenoz, qui nous reçoit chez lui pour parler de son nouveau roman qui paraît en ce mois de janvier sous le titre Bristol aux éditions de Minuit. Bristol, on l'a dit, c'est le nom du personnage principal, Robert Bristol, un réalisateur que nous suivons dans la première partie dans le cadre de l'adaptation d'un roman, un film qu'il va tourner sur le continent africain. Surprise, Jean Echenoz, on connaît votre goût pour le monde entier, mais est-ce que ce ne serait pas la première fois que vous écrivez un roman qui se déroule en partie sur le continent africain ?
Ah ben c'est, oui, c'est la première fois parce qu'il est arrivé dans un certain nombre de livres, comme j'aime bien l'idée de romans un peu géographiques. Il est arrivé que je balade mes personnages un peu loin. La plupart du temps, c'était dans des pays d'Asie, que ce soit l'Inde, la Malaisie...
La Corée du Sud, la Corée du Nord.
La Corée du Nord, ou bien dans le Pacifique, dans le premier livre, c'était la Micronésie. Et puis, je crois que c'était un moment où je me suis dit, au fond, j'ai jamais rien fait. Je ne me suis jamais occupé de l'Afrique, si je puis dire. Et donc, j'ai eu envie de situer ce tournage dans un pays d'Afrique sud-est africain, d'Afrique australe. Et cela supposait ce que j'aime bien faire, c'est-à-dire aussi beaucoup de recherches, de documentation, et pour avoir des éléments concrets sur la géographie, sur la morphologie du pays. Et puis, à partir de là, imaginer des choses. Alors j'aurais pu aller faire du repérage, mais maintenant, une seule fois vraiment pour un roman un peu ancien, j'étais allé faire du repérage au loin, mais c'était en Inde pour un roman qui s'appelait Les Grandes Blondes. Mais le repérage, c'est très intéressant parce que ça permet évidemment d'accumuler des notes, etc. Mais en même temps, ça peut avoir l'effet inverse, c'est-à-dire qu'on est trop près de la réalité et ça peut restreindre un peu, freiner l'imagination. Donc là, pour ce qui est de ce pays d'Afrique, dont le nom n'est pas cité d'ailleurs, mais par contre toutes les villes, les lieux qui sont indiqués existent vraiment.
Effectivement, il s'agit du Botswana.
J'avais décidé que ça se passerait au Botswana. Parce que je voulais un pays d'Afrique australe. J'ai cherché un peu, et puis en cherchant des images, des noms de lieux, celui-là m'a paru accueillant pour ma fiction.
Est-ce que vous étiez inspiré par des lieux comme Bob City, Bobonang, Borbirwa, Limpopo?
Ouais, le fait que Bobonang soit appelé par ses habitants Bob City, ça me plaisait déjà pas mal. Et puis, il y avait aussi un souvenir précis, mais qui est lié à une lecture d'enfance. C'est des histoires comme ça, de Rudyard Kipling. Et une des histoires de Kipling, qui s'appelle, je crois, L'enfant d'éléphant, se déroule au bord du fleuve Limpopo, que je me suis emparé de ce souvenir de lecture aussi. Ça faisait une espèce de support imaginaire. Parce que c'est un livre que j'ai beaucoup lu et beaucoup aimé dans ma jeunesse, dans mon enfance.
Donc vous n'êtes pas allé au Botswana, mais en revanche, ce pays vous a inspiré. J'ai repéré un petit passage, page 65. Est-ce que vous seriez d'accord pour en lire un extrait, Jean Echenoz ?
Je crois que je peux le faire, oui.
Pour qu'on entende votre langue et la façon dont vous avez réussi à vous approprier cet endroit qui est donc... un des lieux du tournage.
Alors, quel passage voulez-vous que je...
Depuis le début, tout simplement, jusqu'à la fin de la page.
Nous voici donc à Bobonang, chef-lieu du sous-district de Borbirwa, dans le bassin versant du Limpopo. Large fleuve aux eaux grasses, huileuses et vert de grisé, le Limpopo est bordé d'arbres à fièvre et ses rives grouillent de crocodiles dont les ancêtres, selon Rudyard Kipling, ont transformé ici même la morphologie des éléphants. C'est en effet qu'à l'origine, en des temps très anciens, les éléphants étaient dotés comme vous et moi d'un simple nez qui n'était pas du goût des crocodiles. Ceux-ci, en tirant de toute leur force sur cet appendice, l'ont élongé au point de transformer le nez en trompe par un effet de distension ligamentaire. Après quoi, si l'on en croit toujours Kipling, cette trompe s'est génétiquement transmise de progéniture en progéniture d'éléphant pour les siècles des siècles.
Et après, on aura la chance de lire une longue scène à nouveau avec un pachyderme qui me semble très intelligent d'ailleurs. Et c'est une scène que je ne peux pas m'empêcher de relier à une scène du début avec une mouche, où vous passez du tout petit insecte que l'on voit virevolter dans le bureau de Bristol à ce gros animal, cet éléphant au Botswana sur le tournage.
Cet éléphant qui prend son rôle très au sérieux, qui cabotine un peu d'ailleurs. Ça a encore à voir avec le jeu sur le regard, c'est-à-dire que j'avais envie qu'un personnage tout à fait au début, qui n'est pas identifié immédiatement, entre dans la pièce où Bristol travaille et que ce personnage ne soit en vérité qu'une mouche et que son parcours dans la pièce soit un petit peu détaillé, comme on détaillerait le parcours d'un humain.
C'est presque un drone, en fait, une mini-caméra.
C'était une espèce de micro-caméra qui intervient dans cet espace-là.
Et l'éléphant ? C'est facile à écrire un éléphant ?
C'est plus scénique. C'est plus scénique, donc on peut jouer un peu plus avec le comportement d'éléphant qu'avec un comportement un peu simpliste d'insecte. Voilà. Parce qu'il y a une différence entre les éléphants d'Afrique et les éléphants d'Asie.
Bien sûr.
Alors donc là, j'ai peut-être un petit peu extrapolé sur... Mais j'ai essayé d'être assez fidèle à ce que j'imaginais de la scène, tout simplement, quoi. Un éléphant qui est engagé comme acteur et qui tient assez bien son rôle, je crois.
Et donc, comme d'habitude, Jean Echenoz, vous nous mettez une bombe entre les mains et puis en fait, vous la découpillez et ça n'explose pas du tout à l'endroit où on pense que ça va exploser.
J'espère que ça explose quand même un petit peu.
Oui, mais c'est un jeu que vous instaurez toujours avec vos lecteurs, n'est-ce pas ? Le conduire vers une situation et au dernier moment... Il y a un retournement presque.
Oui, mais ce n'est pas tellement un travail de séduction d'un lecteur imaginaire. C'est pour m'agiter un peu aussi dans la fabrique de l'histoire, quoi, en essayant de me surprendre et en tout cas de ne pas m'ennuyer. Quoi.
De la même façon qu'on croit assister peut-être à un coup de foudre entre Bristol, le réalisateur, et la jeune actrice qui lui a été imposée, Céleste Open. Il y a un très long regard où, semble-t-il, se joue beaucoup de choses. Mm-hmm. Et en fait,
On ne sait pas. Ça, je le laisse à l'interprétation des lecteurs.
Toujours est-il qu'après la fin du tournage, le montage, la distribution, le film sort. Et malheureusement, même si le titre en a été changé pour attirer un peu plus les chalands, force est de constater que c'est un échec.
C'est un four absolu, oui.
Et je me disais, Jean Echenoz, en vous lisant, que cette chute de l'homme à laquelle on assiste dans la première scène fait d'une certaine façon peut-être écho à la chute de Bristol comme réalisateur, parce que là, il est face à un échec patent. Est-ce que c'est aussi un roman sur l'échec ?
Je trouve que l'échec dans la fiction est beaucoup plus intéressant que la réussite. Moi, ce qu'on pourrait appeler, pour parler vite, c'est un terme un peu ancien, les héros positifs m'ennuient. Je préfère les personnages en difficulté. Et je trouve que l'échec est romanesquement peut-être plus fertile. Pour citer une référence immense, tous les romans de Flaubert sont des romans d'échec, autant... Madame Bovary, c'est un échec. Frédéric Moreau, dans l'éducation sentimentale, c'est un immense échec. Sans parler de Bovary et Pécuchet, que j'adore, mais qui vont d'échec en échec. Et qui sont d'autant plus attachants et d'autant plus intéressants.
Beckett aussi travaillait beaucoup sur l'échec.
Beaucoup, oui. Et Beckett travaillait beaucoup sur l'échec. Et puis, il y a une dimension qui est importante, comme chez Flaubert d'ailleurs, c'est la dimension de rire. qui n'est pas réductible à la plaisanterie, au gag. Non, c'est une espèce de rire qui résonne quelquefois derrière les récits, comme il résonne chez Kafka, comme chez beaucoup d'auteurs qui m'intéressent.
Est-ce que l'échec, c'est aussi une question qui vous intéresse plus personnellement? Est-ce que vous pensez à l'échec quand vous sortez un roman, par exemple, Jean Echenoz?
Je crois que je ne me pose pas tellement la question. On sait jamais très bien ce qui se passe quand un livre paraît. C'est d'ailleurs comme quand on commence à l'écrire, c'est lancer les dés, quoi. Puis on verra bien comment ça se passera.
Mais ça vous touche, la réception d'un roman ou pas?
Bah forcément, oui. Oui, bah oui, c'est. J'ai le sentiment que j'écris d'abord pour moi, c'est-à-dire que ce premier lecteur, c'est moi. Ne soyons pas hypocrites, c'est aussi un lecteur imaginaire qui existe peut-être quelque part. Mais évidemment, quand ce travail, ce montage devient quelque chose de public, bah oui, on est un peu attentif quand même.
Et comment est-ce que vous réagiriez si un de vos livres n'était pas bien reçu? Vous le sentiriez comme un échec?
Sans doute, oui. Je crois que je ne le prendrais pas très bien. Mais, mais c'est, ça me paraît normal, oui.
Est-ce que ça pourrait vous empêcher d'écrire?
Je ne crois pas. Je ne crois pas parce que vraiment, si j'avais pas cette activité qui est un peu quotidienne, je ne vois vraiment pas ce que je pourrais faire d'autre. Quoi. Parce que j'ai toujours eu envie de comme la plupart des gens qui écrivent, c'est quelque chose un désir qui arrive très tôt dans l'enfance, l'adolescence. Et puis on écrit n'importe quoi, on fait des petits poèmes, on raconte ses rêves, on essaie des formes comme ça. Et en vérité, on fait des pages d'écriture. En attendant, moi j'ai commencé à publier mon premier roman, je ne sais pas, j'avais une trentaine d'années, mais ça a été précédé par des essais et des erreurs. Puis à un moment, on se dit, bon, il faut essayer d'y aller.
Et vous écrivez tous les jours encore, Jean Echenoz?
Tous les matins. Mais c'est pas du tout une discipline, c'est comme ça. Je me lève et puis je vais m'occuper de ma machine. Quoi. Ouais.
Vous tapez à la machine?
Oui, enfin, ce qui est un ordinateur maintenant.
D'accord. Est-ce que vous travaillez ici, dans cette pièce où nous sommes?
Non, dans un bureau à côté.
D'accord, donc vous travaillez chez vous?
Oui, la plupart du temps, mais je peux aussi, comme je passe pas mal de temps maintenant à la campagne, je travaille aussi bien là-bas, quoi. Ouais. J'ai pas de rituel particulier.
Et toujours le même plaisir, alors?
Ah ben le même plaisir, et puis quelquefois quand ça marche pas, c'est pas du tout du plaisir, mais disons en tout cas, au moins toujours la même obstination.
Et nous, le plaisir que nous avons à vous lire et ce sourire qui nous vient naturellement devant certaines formules, des tournures de phrases ou des associations d'idées, vous l'avez aussi, vous, quand vous écrivez?
Quand j'ai le sentiment que je suis arrivé à produire, peut-être, c'est toujours des hypothèses, hein, on ne sait jamais comment ça... Quand j'ai le sentiment qu'une phrase est au point, que ça peut déclencher, oui, un sourire, oui, j'ai une espèce de satisfaction, mais comme c'est quand même un travail un peu minutieux, je souris pas très souvent en travaillant.
Ah, quel dommage!
Oh, mais de toute façon, l'intérêt que j'y porte me suffit. Hein.
Merci beaucoup, Jean Echenoz.
Mais merci.
De nous avoir parlé avec autant de gentillesse.
Merci.
De ce nouveau roman qui s'intitule Bristol et qui est apparu, comme tous les précédents, aux éditions de Minuit.
Merci.
Littérature sans frontières, Catherine Frujon-Toussaint, Apolline Verlon.